Donc avec Rima Mokhaïech, Clément Smith, Valérie Jouve et d'autres bénévoles, nous sommes donc des membres du collectif Ma'an, Ensemble pour les artistes de Gaza. Et depuis plus de 2 ans, on se mobilise pour accueillir en France des artistes et des chercheurs de Gaza dans le cadre de résidences étudiantes ou en programme pause pour leur permettre de continuer de travailler. Alors pour rappel, le programme pause, c'est un programme d'accueil en urgence pour les artistes et scientifiques en danger, qui est porté par le Collège de France et placé sous l'égide de 4 ministères, donc l'enseignement supérieur, la culture, les affaires étrangères et l'intérieur. Donc le programme PAUSE cofinance des projets d'accueil via des salaires à hauteur de 60% quand les structures d'accueil peuvent assumer les 40% restants. Les artistes et scientifiques qui sont accueillis en tant que salariés, donc pour la durée de 1 ou 2 ans, bénéficient d'un visa passeport talon et non pas d'un visa de réfugié. À ce jour, le collectif Ma'an a accompagné 55 artistes gazaouis pour lesquels on a trouvé donc des résidences en partenariat avec une centaine de partenaires d'accueil universitaires ou culturels. Mais seuls 26 artistes avec leurs familles, donc 150 personnes en tout, ont pu commencer leur résidence en France et continuer à témoigner là où Israël fait tout pour les faire taire. Ces artistes, soutenus par Ma'an, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En fait, le gouvernement français bloque de manière générale l'arrivée en France de toute personne issue de Gaza. Il y a d'abord les 21 lauréats PAUSE qui sont bloqués à Gaza avec leurs familles, donc 115 personnes, depuis des mois, parfois depuis plus d'une année et demie. Il y a ensuite les 67 dossiers de candidats gazaouis qui ont été déposés en septembre 2025, qui ont été sélectionnés par le comité scientifique et artistique de PAUSE, mais seulement 12 d'entre eux, uniquement des personnes sans famille ou qui se sont retrouvées dans l'obligation de se séparer de leur famille, cruelle injonction de la France, qui ont été déclarées officiellement lauréats PAUSE et donc mis sur les listes d'évacuation. Les 55 autres lauréats potentiels, avec des familles, donc ça veut dire 219 personnes en tout, sont toujours en attente de la validation des ministères de tutelle du programme PAUSE. Alors les structures ont été informées par un mail la semaine dernière que leurs candidats remplissaient tous les critères pour être lauréats, mais qu'ils ne pouvaient pas être officiellement lauréats, car le gouvernement français ne peut pas les évacuer. Une situation inédite dans l'histoire du programme PAUSE. Si la raison du blocage est que la France ne peut pas évacuer depuis la Palestine, depuis Gaza, alors pourquoi 2 lauréats PAUSE gazaouis qui ont pu être évacués par l'Espagne et l'Italie l'année dernière sont toujours bloqués en Europe depuis des mois en l'absence de délivrance d'un visa par la France? Et last but not least, le 13 janvier, nous avons appris avec consternation que le programme PAUSE se voit contraint par ses ministères de tutelle de suspendre l'instruction des dossiers de nos collègues habitants Gaza. La raison invoquée est encore une fois que la France ne peut pas évacuer à cause des autorités locales, israéliennes et jordaniennes, qui restreignent effectivement drastiquement les évacuations. Mais alors pourquoi d'autres pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni ou l'Italie le peuvent, dans des proportions bien plus élevées que la France? Je rappelle que depuis octobre 2023, la France n'a opéré que 29 évacuations médicales, quand le Royaume-Uni en a fait 55, l'Espagne 65 et l'Italie 215. Plus généralement, la France a évacué 652 personnes en tout, quand l'Italie, par exemple, en a évacué 1400. Ce qui prouve le manque total de volonté politique de faire aboutir ces démarches, voire une obstination politique émanant notamment du ministère de l'Intérieur de ne pas accueillir de Palestiniens de Gaza en France. Cette décision relève d'un acte discriminatoire notoire lié à une origine géographique faisant blocage à la sortie du territoire de potentiels témoins des massacres en cours à Gaza. Nous exprimons ensemble notre indignation face à ces politiques discriminatoires qui visent une population en particulier, reflet de ce que des chercheurs appellent un racisme anti-palestinien qui sature notre champ médiatique et politique. Ce programme représente pour beaucoup l'unique porte de sortie, l'unique espoir d'un répit intellectuel et humain dans une situation insoutenable. Il ne s'agit pas seulement de solidarité, mais de responsabilité. Celle de défendre la liberté de transmettre, de témoigner, d'imaginer, de créer même et surtout en temps de génocide. Et c'est pour préserver ces témoins de l'histoire qu'il faut continuer aujourd'hui, plus que jamais, à se mobiliser. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Patrick Zahn, président de Jurdi, l'association des juristes pour le respect du droit international. Merci beaucoup.
Voilà, je suis très honoré d'avoir été invité par vos collectifs respectifs qui organisent cette conférence de presse. Je m'appelle effectivement Patrick Zahn et l'honneur de présider cette association, donc des juristes pour le respect du droit international. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent notre mandat strictement juridique, notre expertise reconnue et crédible en droit international, ainsi que nos principales activités qui sont de plus en plus relayées dans la presse que je veux saluer ici. Ce sont pour l'essentiel des actions de plaidoyer, de contentieux stratégiques devant les tribunaux français et d'autres pays européens, ainsi que devant les juridictions de l'Union européenne et des tribunaux internationaux, dans le but de, comme je l'ai dit, promouvoir et défendre le respect et l'application du droit international, y compris le droit humanitaire, des droits humains, dans le contexte du conflit israélo-palestinien strictement. Je voudrais, dans un premier temps, aussi remercier pour toutes et tous qui n'avaient cessé d'œuvrer jour après jour à monter avec tant de travail, de courage et de difficulté les dossiers qui viennent d'être présentés là maintenant, d'accueil du programme PAUSE et à œuvrer à les faire valider. Cette solidarité altruiste responsable, mais aussi par fraternité, par souci d'une hospitalité universelle avec la population palestinienne et en particulier avec tous nos collègues, artistes, scientifiques, chercheurs, universitaires pris au piège d'un génocide qui se poursuit sans répit et dont l'avenir et la survie sont menacés. Je suis ici aussi pour partager votre réaction, de consternation, mais aussi d'indignation. En réaction à la suspension qu'on espère provisoire du programme effectivement d'accueil national pour les artistes et chercheurs en danger. Il est important de souligner en danger, car ces personnes le sont en danger, bien plus que bien d'autres. Une suspension qui doit cesser et ouvrir la voie à des validations de dossiers de ces artistes et scientifiques subitement exclus pour des raisons contestées et contestables des prochains appels de candidature. Il a été rappelé maintenant qu'il y a effectivement d'autres pays qui ont agi autrement, ce qui prouve que quand on veut et on peut, et que la volonté politique des autorités françaises, dans le cas présent, a fait défaut de manière discriminatoire. Ces personnes sont, ça a été rappelé, la mémoire du peuple palestinien, ses talents, ses intelligences que l'occupant a voulu détruire et réduire à néant en détruisant les universités, les écoles, les musées et tous les autres biens culturels protégés par le droit international. Ce sont eux que le droit international doit protéger. Et pendant ce temps-là, tous les lauréats sont condamnés à attendre que les suspensions soient levées, attendre dans des conditions épouvantables, attendre dans la boue, les eaux sales, la peur, les menaces pour eux et leurs familles, avec la maladie et la mort qui peut arriver à tout instant, sans rien à manger, sans soins, sans espoir et sans avenir, abandonnés de ceux qui doivent les protéger. Et qui doit les protéger? Le droit international. Donc les États qui ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, en particulier la 4e Convention de Genève. C'est ce droit international que Israël a l'obligation impérative et erga omnes de respecter, mais aussi que tous les pays du monde qui sont partis à ces traités ont l'obligation de faire respecter en toutes circonstances. En toutes circonstances, c'est-à-dire sans exception et sans aucune espèce de motif de quelque nature qu'il soit, juridique ou autre, terrorisme, droit de défense, nécessité militaire, ne peut justifier en aucun cas que ces obligations soient violées. La France a l'obligation de faire respecter ses traités de droit international, y compris de droit international humanitaire, en toutes circonstances. Et elle a l'obligation également de prévenir le crime de génocide qui est établi par la Cour internationale de justice et par nombre d'autres rapports et documentés. Et cette obligation de prévenir le crime de génocide, elle ne le fait pas. Et donc, en l'occurrence, ce que je peux conclure, c'est que en ne faisant pas ça, en ne respectant pas ces obligations internationales, ou très peu, et en ne respectant pas l'obligation de prévenir le crime de génocide et bien d'autres traités de droit international, elle met naturellement ces personnes protégées par le droit international en danger. Et en l'occurrence, elle confirme qu'elle ne n'a pas l'intention de changer de position à l'égard des personnes qu'elle doit protéger dans les territoires occupés et essayer de faire au mieux pour faire sortir ceux qui sont en danger de mort, qui sont à la mémoire du peuple palestinien. Je vous remercie.
On va passer la parole à Sarah Rolfo pour la Bibliothèque arabe associée de Marseille, qui parle aussi au nom de Maud Leroy des éditions Délisière.
Bonjour, je prends la parole au nom d'un ensemble de structures qui travaillent avec des poètes et poétesses de Gaza. Ensemble et en association avec plusieurs autres acteurs, actrices locaux, nationaux et internationaux, et avec l'aide précieuse aussi des équipes de PAUSE, nous avons rassemblé nos savoir-faire, nos réseaux, notre temps et nos ressources financières pour des résidences qui ont été pensées selon l'univers de création du poète ou de la poétesse concernée et comme une occasion d'enrichissement culturel avec les publics en France. Un poète, père de trois jeunes enfants, est attendu à Paris par la revue de funambulistes qui va l'accompagner dans un travail sur la littérature enfantine. Lauréat pose depuis avril dernier et sans perspective d'évacuation. Les éditions du Port à Jauny à Marseille attendent un jeune poète qui, à Gaza, met la poésie au service des enfants. Lauréat pose depuis juillet dernier et sans perspective d'évacuation. La Marelle attend une poétesse et ses trois enfants pour concrétiser avec elle une collaboration avec plusieurs musiciens autour d'une œuvre hybride. Son dossier, accepté par pause, est suspendu. À Arles, l'Association pour la promotion de la traduction littéraire attend un poète et son épouse sur un projet d'écriture de non-fiction créative. Son dossier, accepté par pause, est suspendu. Dans la Drôme, les éditions des Lisières attendent une poétesse et ses six enfants et qui, à Gaza, accompagne des centaines d'enfants à travers des activités artistiques. Son dossier, accepté par pause, est suspendu. L'attente pour eux est interminable et mortelle. Pourquoi les évacuations vers la France sont-elles impossibles alors que d'autres pays y parviennent? Ainsi, un très jeune et talentueux poète, attendu par le Centre international de poésie de Marseille depuis juillet dernier, a finalement été évacué par l'Italie, qui lui offre de pouvoir poursuivre ses études. La France s'est engagée vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes. Elle leur a fait la promesse de pouvoir vivre et continuer à créer hors du génocide en cours. Et à nos structures, la France a fait la promesse que nous pourrions les accueillir. Cette promesse, la France ne peut nous la reprendre. Or, c'est ce que font ces blocages. Nous demandons que le nécessaire soit fait rapidement pour qu'ils puissent sortir de Gaza et être mis à l'abri. Certains des candidats que nous soutenons sont connectés depuis Gaza et nous écoutent. Nous leur adressons ce message. Nous vous attendons, vous et vos familles, et espérons que vous serez bientôt parmi nous. Hamid, Mohamed, Nassim, Naama, Jawad, Haidar, نحن في انتظاركم انتم وعائلتكم هنا في فرنسا ونتمنى ان نلتقي قريبا كونوا بخير دائما merci.
Je m'appelle Ramzi Abouredouane, je suis musicien artiste fondateur de l'association Al-Kamanjati qui travaille pour le développement de la vie musicale en Palestine et nous avons sur les dernières 10 années avant la guerre sur Gaza beaucoup travaillé à Gaza et on a beaucoup collaboré avec des musiciens artistes et immédiatement dès le début du génocide et la guerre sur Gaza, nous avons répondu à beaucoup d'artistes musiciens qui avaient plus d'abri, qui avaient plus de maison et donc nous avons construit un abri déjà à Rafah pendant le début de la guerre sur Gaza. L'abri a accueilli une centaine de personnes, en fait, de familles de musiciens. Et donc, aussitôt que cet abri a été détruit, nous avons commencé à travailler, à aider, faire venir quelques artistes, ces artistes, en fait, qui travaillaient avec nous pendant nos activités à Gaza dans les dernières 10 années. Et nous avons réussi à déposer en ce dossier, tous ces dossiers ont été acceptés. Et nous avons eu déjà 7 familles qui sont arrivées en France, à Angers, Bordeaux, Montpellier. Et donc, on attend l'évacuation de 4 autres familles, qu'ils ont eu certains l'accord depuis presque une année maintenant, et qu'on attend l'évacuation. C'est vrai que c'est très malheureux de ne pas pouvoir répondre à ces artistes, et personne ne sait pourquoi. La France a arrêté d'évacuer et a donné le droit à ces lauréates en fait, et à ces artistes de pouvoir continuer leur travail. Jusqu'au présent, aujourd'hui, en fait, avec déjà les artistes et musiciens qui sont en France, qui sont très bien ancrés en fait, dans les paysages, on en a fait environ une centaine, ils ont fait une centaine de concerts un peu partout en France et en Europe. Et certains enseignent déjà la musique orientale. Et puis les autres, en fait, qu'ils attendent. Et c'est vrai que c'est honteux de faire attendre des familles entières. Alors, ils ont eu l'accord, ils ont eu leur droit, comme c'est le cas pour le programme PAUSE, quand il s'agit d'un citoyen de monde. Alors, pour la Palestine et pour les Palestiniens, on arrête un programme tel que PAUSE ou l'évacuation pour pouvoir donner cette chance ou cette possibilité de témoigner de ce qu'ils ont vécu, ces musiciens et ces artistes. Les familles d'artistes représentent souvent 4 à 5 personnes, en fait, avec leurs enfants et leurs femmes. Donc, on espère que cette situation se débloque pour que toutes les artistes puissent venir et puissent exercer et vivre tout à fait un moment normal après tout ce génocide qui est mené à Gaza.
Merci beaucoup, Ramzi. Je vais passer la parole à Sébastien.
Oui, je vais pas être très long. Quelques mots pour conclure, juste sur le côté de la musique. Donc moi, je suis Sébastien Lossel, le directeur de Zone Franche, le réseau des musiques du monde. On n'est pas un accueillant direct, puisqu'on est un réseau dont les membres sont des festivals, des salles, des producteurs, etc., dont certains ont accueilli des artistes, et notamment, enfin, essentiellement ceux portés par l'association El Khawandjati, qui a fait tout ce travail remarquable de concentrer, on va dire, les dossiers pose, et ce qui a beaucoup facilité le travail derrière pour que les artistes soient accueillis chez des membres de Zone Franche à Montpellier, à Bordeaux, etc., notamment, et pas que des membres de Zone Franche, mais voilà, comme l'a dit Ramzi, nous, au niveau de Zone Franche, on est mobilisés de manière très globale sur la libre circulation des artistes et des professionnels, notamment via le comité Vise Artistes que nous avons mis en place depuis 2009 et qui s'intéresse à tous les champs artistiques pour résoudre les questions de visa. Et je voudrais simplement décaler un peu et amener un regard sur ce qui se passe aujourd'hui relativement au programme POS et notamment les arguments qui sont dits sur la capacité à évacuer. Est-ce que ce sont des problèmes techniques ou est-ce que ce sont des choix politiques? Moi, je pose clairement la question et je vous amène cet autre exemple. Zone Franche est mobilisée en mai et juin dernier pour deux artistes de Gaza qui étaient sélectionnés dans un autre programme qui s'appelait le Sawa Sawa, totalement porté et animé par l'Institut français, financé par l'Institut français. Tous les artistes ont eu leur visa, sauf les deux artistes de Gaza, et pourtant il n'y avait pas de problème des évacuations puisqu'ils étaient déjà au Caire. Mais voilà. Parce qu'ils étaient de Gaza, les visas ont été refusés. Ça a donné plus d'un mois de bataille pour les obtenir avec la mobilisation du secteur, etc. Donc, une fois de plus, aujourd'hui, on constate concernant le programme COSE que les artistes de Gaza et intellectuels sont stigmatisés. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est clair qu'il y a une visée simple sur ces artistes-là et empêcher peut-être les témoignages ou les visions de ce qui se passe actuellement là-bas. Voilà, pour faire court.
Merci beaucoup Sébastien pour ce constat que nous partageons et on va passer au secteur du cinéma avec Marie-Antonelle Joubert de l'école Courtrage-Mé.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, ouais, je suis Marie-Antoinette Joubert, je dirige l'école Courtrage-Mé à Marseille. Nous avons eu la chance d'accueillir le scénariste et réalisateur Amer Nasser en avril 2025. Je représente une école de cinéma, du coup, j'ai l'air de représenter la culture, mais peut-être que c'est important pour moi de vous dire aussi que je représente surtout la formation et l'insertion. Aujourd'hui, nos écoles Courtrage-Mé, elles sont le fruit d'une volonté politique, c'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure et que je veux reprendre, de lutter pour plus de représentativité dans l'audiovisuel, parce qu'on pense que la culture, c'est un des moyens de renforcer la démocratie. Donc, on accueille évidemment des étudiants de plein de territoires français, mais aussi de plein de pays. Et là, on revient par exemple d'un gros projet France-Brésil. Donc, on est convaincu qu'on est tous citoyens du monde, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, et que c'est une responsabilité de la culture et des centres de formation de cette humanité-là. Donc, dans cette même volonté politique, effectivement, nous, on a été d'accord, alors qu'on a des budgets assez restreints, de payer 40% du salaire de Amer, dont l'autre partie est payée par pause. On apprend à travailler en anglais le temps qu'il apprenne le français. Nos équipes, nos étudiants, tout le monde fait plein d'efforts pour l'intégrer. Et puis lui, surtout, il en fait énormément pour arriver à reconstruire une vie. Il est en charge de l'éducation artistique et culturelle. Chez nous, il y a eu un accueil très, très enthousiaste à son arrivée, des étudiantes, des étudiants, mais aussi, et c'est important de le dire, des pros, des prods, des intermittents, des chefs de poste, des techniciens, pas juste les artistes. Voilà, et pas juste parce qu'il venait de Gaza, mais parce qu'il est étranger, il parle une autre langue, il porte d'autres récits. Et ça, on l'a vu et on le ressent tout le temps quand on est avec Amer dans des réunions et des représentations de notre école. Il donne aussi des cours aux étudiants, évidemment, et ça, c'est un apport fantastique. Donc, on a la sensation, nous, à l'école Courtrage-Mé, qu'on a fait notre part. Pas juste parce qu'on paye les 40%, mais on a rempli le dossier, on a aidé à trouver un appartement. Enfin, voilà, on a la sensation de faire notre part, que c'est une part que tout le monde doit faire. Et notre sensation, notre analyse, c'est que l'État ne fait pas assez la sienne pour faire valoir le droit international, comme ça a été dit, et puis pour faire un peu avancer le débat et les choses. C'est dommage parce que c'est vrai que moi, je suis d'une génération où la France avait quand même un autre poids et qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression de voir ça s'écrouler. Je pars sur peut-être une petite note positive dont on aime bien se servir. C'est un petit chiffre, c'est qu'il est arrivé en avril 2025. En mai 2025, il était à Cannes et il recevait avec ses deux frères qui sont là le prix de la mise en scène dans la section Un certain regard pour son film Once Upon a Time in Gaza. Donc, je veux dire en plus, bon, c'est sûr qu'on fait venir des gens qui sont nécessaires dans notre milieu, le cinéma. Et aujourd'hui, c'est un exemple, mais le cinéma palestinien, il a lutté pour faire, il a survécu pour faire valoir un message d'humanité, mais aussi plein de genres divers. Quand vous voyez Once Upon a Time in Gaza, vous ne voyez pas un plaidoyer pour la Palestine, vous voyez un genre qu'on voit rarement et que le cinéma palestinien doit pouvoir défendre aussi. Voilà, donc nous, on a l'impression de faire notre part et on demande à ce que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts pour faire la sienne. Je vais conclure là-dessus.
Merci pour cette demande très claire, très légitime, et merci pour cette note positive. On va passer à des interventions universitaires, en commençant par Sophie Vauquier de l'Université Paris 8.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de mission chercheur en exil à l'Université Paris 8. Donc oui, je m'appelle Vauquier, mais avec un R au bout, si vous avez bien lu. Donc, j'étais vice-présidente des relations internationales jusqu'à l'année dernière. Voilà, donc Paris 8 a une longue histoire, en fait, de soutien à aux libertés académiques et à l'accueil des chercheurs en danger depuis la création, hein, depuis Vincennes. Et nous sommes entrés dans le programme POSE en 2017. Et nous avons depuis accueilli, nous accueillons en ce moment 8 personnes. Depuis 2017, nous avons accueilli environ 25 personnes. Donc 8 personnes plus 2 dossiers de collègues gazaouis qui sont en attente. Donc d'abord, un collègue qui a été validé et retenu par le programme en octobre 2024. Donc ça fait plus d'un an que nous attendons son arrivée. Et puis sinon, une autre collègue, donc un dessinateur, performeur, art graphique, et puis sinon une dramaturge qui est en attente là, de la validation de son dossier en janvier 2025. Donc ce que je voudrais dire, nous, ce qu'on a comme témoignage à apporter, c'est qu'on a toujours eu un très bon retour des ministères de tutelle, même en situation très difficile pour l'Afghanistan, pour l'Ukraine, pour la Turquie, et on a toujours été très bien aidés, même dans des situations très très difficiles. On sait que la situation est complexe, que la France n'est pas le seul acteur dans la région, qu'il y a des tas d'interférences diverses qui peuvent intervenir. Nous savons qu'il y a une cellule de crise au MEAE qui est très bien mobilisée, nous avons de bons contacts avec le consulat de France à Jérusalem, mais justement, la situation suscite de la perplexité et de plus en plus d'inquiétude, voire de la colère, dans la mesure où des gens qui sont retenus depuis octobre 2024, qui sont pourtant célibataires ou aux frontières européennes, comme ça a été signalé, ne sont pas évacués. Donc on peut comprendre qu'il y ait des acteurs dans la région qui soient problématiques, mais là, on ne comprend pas pourquoi ces personnes-là ne sont pas évacuées. Ça nous laisse très perplexes. Et d'autre part, le critère d'ethnicité n'a jamais été un critère. C'est-à-dire que même quand nous avions 4 dossiers turcs, les cas des personnes dans l'instruction des dossiers, quand on instruit les dossiers, les critères qui sont retenus, c'est l'urgence, la qualité du dossier scientifique qui est validé et qui est soutenu par un référent et par l'institution en tant que telle, et l'adéquation au projet d'établissement. Et même quand on a présenté des dossiers de plusieurs nationalités en même temps, l'Iran en particulier, où on a soutenu des dossiers iraniens de parfois 4, 5 personnes, plusieurs personnes en même temps, le dossier est quand même suivi individuellement. Et je comprends que les questions d'évacuation nécessitent un traitement collectif, mais le suivi et le choix de la constitution des listes pour l'instant semble être aléatoire et arbitraire. Donc pour conclure, nous demandons instamment que les gens qui ont été été sélectionnés depuis 15 mois soient évacués par la France et que la suspension de la validation de janvier 2025, qui crée une situation inédite pour nous, est très difficile à gérer dans la mesure où il y a un narratif, une fracture et une incohérence de la position française, qui est un programme public national financé par de l'argent public, qui valide des dossiers qui, par ailleurs, ne sont pas validés par l'instance publique, la tutelle ministérielle. Voilà, donc on demande qu'il y ait une réponse sur ces questions dans une situation humanitaire gravissime, de situation de survie, les ONG ou l'accès au territoire gazaoui pour les ONG limité, où il y a des violations massives du droit international. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été très très bien dit avant moi par des personnes beaucoup plus spécialisées sur le sujet. Et pour nous, les valeurs académiques que nous défendons sont transgressées, sont vraiment pas soutenues par nos ministères de tutelle, qui pourtant en sont les incarnations et les porteurs comme nous. Voilà, je termine là-dessus.
Merci beaucoup Sophie. Toujours dans le domaine universitaire, c'est Bien Dobouy qui va prendre la parole au nom du collectif universitaire avec Gaza, qui est aussi représenté aujourd'hui par Youssef Arlis.
Je représente Universitaire avec Gaza. Nous sommes un collectif de vacataires, doctorants, chercheuses et enseignants. Nous avons aussi accompagné des candidats pause, donc une quinzaine de dossiers, en coordination à travers autant d'universités et de structures, et donc levée de fonds, création de projets scientifiques en accompagnement des candidats. Et également, nous rencontrons les mêmes difficultés, les mêmes obstacles et les mêmes blocages politiques vis-à-vis ces candidatures. Et de plus, donc nous avons voulu souligner un peu en parallèle le sort des étudiants qui sont toujours à Gaza ou bien qui sont en Égypte ou ailleurs, palestiniens. Donc nous suivons près de 200 étudiants dans leur démarche pour venir étudier et construire un avenir en France. Et à toutes les étapes, les étudiants ont rencontré, tout comme les candidatures posent, un traitement qui porte gravement préjudice à leurs chances à la fois de survivre et de construire un avenir. Ce sont des jeunes de 18, 20, 24 ans qui souhaitent étudier, par exemple, l'informatique, les langues, les mathématiques, et tous rêvent tout simplement d'un avenir en sécurité, comme les candidatures posent. Ce traitement discriminatoire se trouve, donc je souhaitais définir, détailler un peu plus où se trouvent ces obstacles, car c'est pas forcément le même processus que pour les candidatures posent. Donc premièrement, pour les étudiants, au niveau des conditions d'accès à la demande de visa, les critères qui sont posées par l'État sont bien plus difficiles pour les étudiants palestiniens. Déjà, la condition financière est plus élevée que pour les autres pays. Le garant financier suffisant pour tout autre pays ne suffit pas ici. Il fallait, dans les communications avec l'État, d'abord une bourse venant de personnes morales, institutions, associations, etc. Puis, non, en fait, une bourse venant de l'université. Puis, finalement, une bourse uniquement du gouvernement français. Donc, comme on le sait, ces deux derniers développent des politiques de grande austérité. C'est pas vraiment le moment de dégager des bourses. Donc, nous avons rencontré des grandes difficultés pour aider ces jeunes. Et à chaque durcissement de critères, les étudiants ont dû chercher encore et encore une aide financière. Certains ont dû abandonner alors qu'ils ont des garants financiers solides, ou encore des bourses d'institutions privées qu'ils ont dû abandonner au cours de route. Puis au niveau de la communication autour de la demande de visa, ça a été très difficile aussi, notamment pour les étudiants en licence, soit les plus jeunes, les plus fragiles d'entre eux. Pas de calendrier, pas d'accusé de réception, pas de refus explicite, le vide total en communication. Et nous avons fini par comprendre, sans réelle réponse claire de l'État français, que ces étudiants sont finalement exclus des demandes de visa, alors que des centaines d'étudiants sont admis en licence dans des universités françaises et qui ont pu déposer leur dossier malgré tous les obstacles. Donc, en plus des demandes énoncées par les collègues, qui sont très bien détaillées dans notre communication, nous demandons aussi une prise de responsabilité niveau de France Université et de nos universités, dont nous sommes le personnel, le corps enseignant, pour soutenir les étudiants et Gazaouis admis dans nos parcours. Il est question ici d'honorer, comme disait ma collègue Sophie Wauquiez, la mission de l'université à réellement vivre ses valeurs humanistes. Et nous demandons aussi une transparence dans le fonctionnement et dans la communication. Je pense que tout le monde en est d'accord, autour de pause et autour des étudiants qui attendent depuis des mois sans réponse. Quel est le sort de ces dossiers? Est-ce qu'ils sont encore éligibles et quels sont les critères de sélection réels? Merci beaucoup.
Et nous allons conclure les prises de parole avec Didier Fassin du Collège de France et de l'Institute for Advanced Study. Je suis.
Je vous remercie et merci d'organiser cette conférence de presse. Alors, il existe aujourd'hui dans le monde une série de programmes d'accueil de scientifiques et d'artistes qui sont menacés dans leur pays. Pourquoi des scientifiques et des artistes? Parce que, en usant de la liberté académique et de la puissance créatrice qui sont les leurs, ils constituent un danger pour les pouvoirs et sont dès lors particulièrement les victimes des régimes autocratiques et des groupes armés. POSE est l'un de ces programmes nationaux qui est porté par le Collège de France et soutenu par l'État français. Il a permis d'apporter une protection à plusieurs centaines de scientifiques et d'artistes du monde entier. Aujourd'hui, la situation la plus tragique concerne les scientifiques et les artistes palestiniens, en particulier à Gaza, où selon la Commission indépendante des Nations unies et l'Organisation de droits humains israélienne B'Tselem, un génocide est en cours. Les intellectuels, les chercheurs et les créateurs étant spécifiquement visés par l'armée d'occupation. Or, c'est précisément ces femmes, ces hommes en danger de mort, lauréates et lauréats de POSE, que le gouvernement français a décidé d'abandonner à leur sort. Depuis 6 mois, aucun d'eux n'a pu être évacué vers la France faute de visa. 2 ont toutefois pu sortir de l'enclave et sont en Europe, mais toujours privés d'un droit d'entrée sur le sol français, dont le poète, éditeur et responsable culturel, et qui doit être accueilli sur ma chaire au Collège de France. Et aujourd'hui, c'est tout le programme qui est suspendu pour les nouvelles candidates et les nouveaux candidats. Les nombreuses interventions auprès des ministères et des conseillers de la présidence sont restées vaines. Le gouvernement français est donc coupable de non-assistance à personne en danger. Il est coupable de discrimination, dans la mesure où seuls les ressortissants gazaouis sont soumis à cette mesure de rétorsion. Il est coupable de violation du droit international, puisqu'il s'agit d'une punition collective décidée à la suite d'un propos antisémite d'une étudiante palestinienne qui n'était du reste pas lauréate du programme. En n'honorant pas ses engagements, le gouvernement français jette le déshonneur sur notre pays. Je vous remercie.